L'avenir s'imagine avec l'ONICEP. Sophie Salvadori, bonjour.
Bonjour.
Alors Sophie, aujourd'hui vous êtes venue accompagner et grâce à vous, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Patrice Thuot, directeur du pôle santé CRIP, le centre de rééducation et d'insertion professionnelle réservé aux travailleurs handicapés. Bonjour Patrice Thuot.
Bonjour à vous, merci pour l'invitation.
Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. On accueille toujours les invités de Sophie.
Bon, super. C'est très agréable.
Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Alors, j'ai l'impression d'avoir un peu raccourci le sigle CRIP. Enfin, donc en essayant de dire ce que c'est, j'ai l'impression que j'ai pas tout dit. Hein.
En fait, le CRIP, c'est un centre de réadaptation professionnelle. La particularité sur Castelnau-le-Lez, c'est que l'UGCAM, donc l'assurance maladie, qui est notre tutelle, a voulu ajouter le I de insertion. Aujourd'hui, on dirait le I de inclusion, ce qui crée l'acronyme CRIP pour centre de réadaptation et d'insertion ou d'inclusion professionnelle.
On reviendra peut-être sur ce vocabulaire. En effet, c'est important dans ce secteur de travail. Alors Sophie, dans notre émission commune, hein, L'avenir s'imagine, notre émission en partenariat avec l'ONICEP, vous nous rendez régulièrement sensibles à la perception que les jeunes ont de leur handicap et la force aussi qu'ils mettent à s'empêcher de penser à un avenir professionnel qui pourtant leur conviendrait.
Et oui, on le constate vraiment systématiquement quand on discute avec ces jeunes-là en situation de handicap, ils disent toujours « mais je ne suis pas capable d'eux, c'est pas possible pour moi, jamais de la vie ». Ils se censurent vraiment un peu, on rencontre un peu cette dynamique-là chez les filles aussi qui sont très bonnes en sciences et qui pour autant ne s'orientent pas du tout vers les sciences dures telles que la physique ou les mathématiques. Donc nous, notre job un peu à l'ONICEP étant d'informer sur les métiers et les formations, on est aussi là pour leur dire mais tu peux le faire, vous pouvez le faire et puis c'est pas parce que vous êtes en situation de handicap que des métiers tels que, notamment on va voir avec Patrice Thuot, des métiers tels que aide-soignant ou infirmier vous sont pas accessibles, loin de là.
Alors c'est ce que nous allons développer avec vous Patrice Thuot. Donc ce centre de rééducation et d'insertion en professionnel, on l'a dit réservé aux travailleurs handicapés, comment est-ce qu'il fonctionne? On a vu que c'était une structure vous diriez nationale.
Alors, il y a une répartition sur le territoire national. Les CRP, en fait, sont issus de la loi de 45 en même temps que la création de la sécurité sociale. Il y a une répartition nationale. On est regroupé sur une fédération qui s'appelle la FAGER, qui permet d'ailleurs, en allant sur le site internet www.fager.fr, d'aller voir toutes les formations qui sont ouvertes aux personnes en situation de handicap à partir de 16 ans. Voilà, c'est-à-dire à partir de la fin de l'âge réglementaire de la scolarité.
Alors, on donne cette information ici en radio, vite fait, bien fait, mais est-ce que ce sont des informations qui circulent bien parmi les personnes qui sont atteinte de handicap?
La difficulté qu'on a, en fait, elles sont multiples. Hein. La première est certainement le regard qu'on a sur le handicap. Sophie Salvadori en a bien parlé. Souvent, on se dit, voilà, je ne suis pas en capacité. Ou alors, est-ce que je suis vraiment, est-ce que je suis handicapé?
Voilà. Ah,
donc, ça suppose de bien, quel que soit l'âge, de se dire, voilà, quelle idée j'ai de ce mot-là. C'est un mot qui est utilisé dans le langage professionnel, mais pas très souvent. Et d'ailleurs, depuis assez peu de temps dans le secteur de la santé pour associer le handicap et l'emploi. C'est-à-dire que quand on prend le secteur de la santé, handicap, c'est la personne qu'on soigne. Ce n'est pas le collègue de travail ou soi-même. Voilà. Alors qu'en fait, quand on est en situation de handicap, ça ne veut pas dire qu'on est inapte au travail. C'est une différence qui est fondamentale. Et les jeunes se disent, oui, mais moi, j'ai un handicap trop léger, je suis diabétique insulino-dépendant, ou je développe une allergie, mais en fait, non, j'arrive à m'en arranger.
C'est oui, ça, c'est okay. Pas du handicap, finalement, voilà. Dans sa tête.
Donc, en fait, il faut bien définir que et la loi de 2005 sur la définition du handicap le précise très clairement, c'est d'abord la notion d'environnement qui est importante. C'est la notion de perte, de limitation dans un environnement donné. Voilà. Vous prenez un coiffeur, une coiffeuse qui développe une allergie aux produits qu'il utilise dans ce métier-là, il est dans cet environnement professionnel, il est inapte. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il est inapte au travail.
Voilà. Et inapte partout.
Voilà, et
c'est dans
partout.
Ce secteur-là.
C'est des notions qui sont très importantes. Dans les vecteurs de communication, pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière sur le regard du handicap, on dit voilà, nos stagiaires ne sont pas en formation sanitaire, hein, ils ne sont pas en fauteuil roulant parce que c'est pas compatible avec les compétences professionnelles qui sont attendues dans le référentiel de formation. Ils ne sont pas aveugles non plus parce que ça n'est pas possible d'être soignant infirmier, hein, ou être soignant, ça n'est pas possible parce qu'on n'est pas en capacité de lire sur des petites ampoules injectables pour mettre en place une prescription médicamenteuse d'un médecin. Et on n'est pas non plus fou. Ça veut dire que si on a un handicap invisible, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble psychiatrique. Voilà. En sachant que quand on dit que ce n'est pas compatible, c'est parce que c'est quand on a un trouble de la relation à l'autre. Là, ça devient compliqué sur un métier de l'humain avec de l'humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inapte à tous les métiers. Voilà. Absolument. Et une fois qu'on a abordé ça, on peut parler de toutes les déficiences qu'on peut avoir. Et on peut s'apercevoir qu'en fait, il faut faire une étude pour savoir si les conséquences du handicap, et c'est bien ça qui est important, les conséquences du handicap, en quoi elles sont compatibles ou en quoi elles sont des limites ou voire trop contraignantes dans ce métier, dans tel autre, et à chaque fois dans un métier visé.
Alors là, Patricio, vous nous faites une présentation très, très large de ce concept de cette perception du handicap. Je vous en remercie beaucoup. Je voudrais juste rappeler que le CRIP, c'est aussi, vous êtes aussi spécialisé dans les métiers de la santé.
Oui.
Voilà, exclusivement. Peut-être on peut redéfinir ça pour ensuite peut-être ouvrir à nouveau sur cette notion du handicap dans la société qui est très importante en effet.
Alors, si on prend l'exemple du CRIP, on a 350 places d'agrément et on a différentes sections. On a d'abord des parties qui évaluent. On est là pour évaluer et orienter les personnes qui sont en situation de handicap pour définir un projet. Pour faire des fois des mises à niveau quand il y en a besoin, pour faire des préparatoires, et on a des préparatoires spécifiques dans le secteur de la santé, et puis on est là aussi pour former et accompagner. Ça, ce sont nos missions que nous avons, et dans le fait de former, on a 16 titres ou diplômes à laquelle on forme qui concernent le secteur de l'industrie, le secteur du tertiaire, le secteur du bâtiment et le secteur de la santé. Et sur le secteur de la santé, ça c'est une particularité sur Montpellier, on a deux préparatoires spécifiques qui préparent au métier d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d'accompagnant éducatif et social ou d'infirmier. Et on a deux formations qualifiantes aujourd'hui, celle d'infirmier et celle d'aide-soignant. Voilà. Et sur cette particularité-là, l'IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers, est le seul en France à avoir cette étiquette visible par tous, qu'on forme et qu'on accueille des personnes en situation de handicap pour qu'ils deviennent demain des professionnels compétents et performants.
Dans le secteur de la santé, vous disiez que c'était une particularité de Montpellier. Est-ce que ce secteur-là est représenté dans d'autres régions?
Oui, pas sur la formation d'infirmier, mais sur les formations, les métiers d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d'accompagnant éducatif et social. Oui, on est 4 en France à faire cette formation-là. On a aussi des CRP qui sont spécialisés sur le référentiel de formation de kiné, qui a par contre comme particularité d'avoir des aménagements dans la formation. Par exemple, il existe aujourd'hui et depuis longtemps des kinés qui sont aveugles. Donc il y a un aménagement du parcours de formation avec des outils spécifiques de compensation. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, la formation, les autres formations que j'ai citées du sanitaire n'ont pas d'aménagement de référentiel. Voilà. Pour autant, on travaille, nous, sur l'accompagnement, sur développer des compensations. Voilà.
Des compensations de la part de la personne handicapée.
Alors, de la part de la personne, par exemple sur de la dextérité, va créer des ateliers de simulation de soins pour développer et trouver avec elle les compensations les plus adaptées pour qu'elle puisse réaliser les gestes. Mais ça peut aussi être des compensations techniques. Par exemple, quelqu'un qui est malentendant.
Donc, du point de vue après l'institution qui accueille.
Une personne qui est malentendante et peut avoir besoin d'une compensation qui peut être de bien poser les codes de communication avec ses collègues ou avec les patients et d'apprendre à le faire, de savoir se positionner dans une salle de cours, de pouvoir se positionner dans une salle de soins au moment des transmissions pour bien entendre tous les messages, de pouvoir aussi avoir des compensations techniques, par exemple un stéthoscope qui soit adapté à ses prothèses auditives pour qu'elle puisse être en mesure de pouvoir prendre des prises de tension artérielle par exemple.
Alors Sophie, tout ce que vient de nous dire Patricio, est-ce que tout ça, les personnes que vous rencontrez qui sont en demande de formation spécifique, les personnes handicapées, ou même peut-être les enseignants ou les psychologues, ont-ils conscience de cette recherche, de cette mise à niveau, on va dire, des uns et des autres, au fond?
Et non, c'est bien pour ça, quand il y a quelques années, on a rencontré l'UNICEF Patricio, on s'est dit, mais voilà, il y a vraiment des choses à dire et des choses à faire. Justement, c'est, même pour nous, c'était professionnels de l'information et des métiers, on connaissait pas. Donc là, on s'est dit, effectivement, et puis quand on voit, voilà, comme on disait tout à l'heure, tous ces jeunes-là qui n'osent pas y aller, on leur dit, ben, il va falloir qu'on ouvre un peu plus de vannes et un peu plus de canaux de médiation pour qu'ils le sachent.
Allez, on fait une pause musicale avec votre choix musical, Sophie Grand Corps Malade, Sixième Sens.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie, souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y'a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Merci pour ce choix musical, Sophie Salvadori. Nous sommes dans l'émission L'Avenir s'imagine, l'émission de l'ONICEP en partenariat avec FM+. Nous venons d'entendre Grand Corps Malade, Sixième Sens, une chanson à écouter attentivement, bien sûr musicalement, mais aussi au niveau des paroles, n'est-ce pas Sophie?
Oui, cette chanson est juste, les paroles sont juste sublimes. Mon Grand Corps Malade sait de quoi il parle, mais quand il dit que bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est tout simplement l'envie de vivre. On a envie peut-être de dire à tous ces jeunes en situation de handicap et à leurs familles qui nous écoutent, que voilà, pour vivre aussi, ça passe aussi par trouver un travail qui nous intéresse sans censure. Et c'est pour ça que Patrice Thiot du CRIP est là pour les aider à trouver une formation adaptée.
Exactement. Alors Patrice Thiot, donc vous êtes directeur pôle Santé CRIP, le centre de rééducation et d'insertion professionnelle réservé aux travailleurs handicapés, notamment dans le secteur de la santé. Alors est-ce que on se dit, lorsqu'une personne en situation de handicap arrive dans un métier de la santé, il va être accueilli par ses collègues qui sont habitués à avoir des personnes peut-être différentes? Je ne sais pas comment dire d'ailleurs, du commun des mortels, et encore, je trouve ça tellement bateau de dire comme ça. Comment ça se passe Voilà, cette insertion, vous disiez inclusion d'ailleurs.
Oui, alors dans cette partie-là, en fait, ça dépend beaucoup des personnes et des professionnels. Ça dépend aussi un peu du secteur d'activité. Si on regarde le secteur de la psychiatrie, ou qui n'est pas ouvert uniquement sur le soin curatif et sur la haute technicité, le regard est plutôt bienveillant. C'est-à-dire qu'il y a cette prise en compte de l'humain qui est plus présente. Chez les professionnels qui travaillent plutôt, alors je peux difficilement faire une généralité, mais c'est quand même un peu des caractéristiques, qui travaillent dans du service de court séjour, médecine, chirurgie, en gros c'est non, mais ça c'est pas un handicap. Ou alors, le handicap c'est fauteuil roulant, aveugle et le malade psychiatrique. Donc comme on sait que 4 fois sur 5, le handicap est invisible,
4 fois sur 5, c'est
ils
énorme.
Se disent, si on le voit pas, c'est qu'il a un trouble psychiatrique. D'accord. Et en général, c'est des professionnels qui demandent souvent plus aux étudiants et aux étudiantes. Ils doivent en montrer plus. Voilà. Bon. Donc, on arrive à désamorcer ça. On arrive à travailler beaucoup avec les équipes parce qu'on a aussi des partenaires employeurs, publics et privés, qui ont une politique active sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans leurs établissements. Alors, en premier lieu, pour répondre à la réglementation qui leur fixe d'avoir 6% de travailleurs en situation de handicap dans leurs effectifs, mais pour aussi montrer dans une valeur sociale que chacun a sa place dans le milieu professionnel. Mmh. Voilà. Parce que ça coûte cher, je dis toujours que ça coûte cher à la société qu'une personne en situation de handicap ne travaille pas. Mais je pense qu'en premier lieu, il ne faut pas oublier que ça lui coûte cher, elle, humainement, de ne pas avoir un job, ou de ne pas avoir la sensation d'avoir sa place. Hein. Et puis, en contrepartie, nous, on le voit même chez les jeunes, c'est des personnes qui ont vraiment des valeurs ajoutées dans l'exercice professionnel, c'est-à-dire que ils ont pris de la distance par rapport à leur situation et ils l'exploitent dans la relation soignant-soigné, et c'est vraiment d'une grande richesse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même attention, la même écoute par rapport à une personne qui agit, que par rapport à une personne qui présente un moment une incapacité qui peut être partielle. Ils ont une attention qui est bienveillante et qui leur donne une maturité personnelle et professionnelle très intéressante.
Alors, comment ça se passe pour un jeune qui va venir choisir une formation, qui est donc en situation de handicap, qui va choisir un métier dans le secteur de la santé? Vous l'avez repéré, vous avez la... Comment le lien s'installe entre cette personne et vous?
La difficulté, c'est justement, comme on disait, comme le regard sur le handicap est très restrictif, hein, sur des handicaps lourds, qu'on appelle lourds, comme s'il y avait des handicaps légers, qui est complètement stupide.
Il faut essayer de s'enlever des clichés voilà. De langage incroyables dans ce secteur.
Et en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous parce qu'en fait, ils ont cherché sur Internet et ils nous ont trouvé sur le site. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a une communication pas toujours parfaite dans le secteur de l'éducation nationale. Il y a des personnes et des professionnels qui en parlent très bien et qui savent orienter et venir vers nous, mais c'est pas le cas partout. Des fois, on leur dit, faut peut-être pas en parler. Voilà, on a encore. Hein. Moi, je milite aussi beaucoup dans les autres instituts pour que les jeunes prennent le risque de dire qu'ils ont une situation de handicap,
d'annoncer, parce que
toutes les personnes qui viennent chez nous en situation de mutation, c'est 90% des personnes qui n'ont pas parlé de leur situation, et donc on n'a pas pu mettre en place des moyens d'accompagnement, tout simplement. Donc c'est un travail important à faire.
Ce que j'entends, c'est que il faut inclure le handicap dans un fonctionnement de société normale, mais en même temps lui permettre justement cette inclusion, comme vous dites.
Oui, tout à fait.
C'est deux mouvements qui sembleraient paradoxaux, contradictoires, mais qui au fond se rejoignent.
Ah, en fait, le principe de la pédagogie, c'est de pouvoir mettre en place des moyens qui soient adaptés à chaque personne. Donc on s'aperçoit que dans la pédagogie, on n'a pas qu'une seule manière d'apprendre, on s'aperçoit qu'on n'a pas qu'une seule manière de transmettre, et qu'on n'a pas une seule manière d'apprendre. Mais qu'à chaque fois, c'est des multiples. Donc en fait, il est nécessaire que, nous, c'est ce que ça nous montre dans notre mission pédagogique, c'est qu'en fait, on doit chercher à chaque fois quelle compensation, quel moyen, quelle astuce pédagogique, quel moyen pédagogique on peut mettre en place pour que ça permette à la personne de pouvoir avancer dans ses acquisitions professionnelles. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont dyslexiques, qui peuvent être des professionnels tout à fait performants, malgré leur situation de dyslexie. On a des personnalités dans la vie publique. Hein. Quand vous prenez Steve Jobs, c'est quelqu'un qui était dyslexique. Quand vous prenez Zuckerberg, c'était quelqu'un qui est aussi dyslexique, qui est fondateur de Facebook. On voit qu'il y a des grandes sommités. Vous prenez Jamel Debbouze, il a une grande carrière d'humoriste et d'acteur.
Avec un bras immobilisé.
Il a un handicap visible avec avec un bras qui a perdu sa capacité fonctionnelle. Vous avez Jeanne Moore, qui est une actrice qui a des troubles obsessionnels compulsifs. Quand vous la voyez dans son jeu d'actrice, vous ne vous apercevez pas de ça, parce qu'en fait, elle a développé des compensations tout à fait pertinentes par rapport à ça. Donc c'est ça l'astuce. Et dans l'éducation, on est amené à ça. C'est avoir des astuces et des méthodes pédagogiques qui permettent de pouvoir les accompagner et devenir des professionnels performants. Mmh. Et des fois, ça ne veut pas dire qu'on va forcément passer beaucoup plus de temps. Voilà. C'est juste de trouver les bonnes méthodes et de travailler avec eux la culture de la compensation.
Mmh. Mais vous, Patrice Sethiou, vous intervenez au niveau supérieur, enfin, je veux dire, après le bac.
Oui, alors justement, on a un point qui est faible aujourd'hui, c'est que les aménagements sont bien mis en place, bien référencés jusqu'en terminale, jusqu'à la fin, le collège, primaire, collège, lycée, ça fonctionne bien. Et après, il y a un trou, quoi. Mmh. C'est-à-dire que l'éducation nationale ne va peut-être pas informer sur les CRP, comme le nôtre, mais on s'aperçoit qu'en fait, souvent, on est sur du handicap moteur et que l'université doit être ouverte à tous. Oui, elle doit être ouverte à tous, mais si on veut être dans une démarche inclusive, il faut veiller à la filière. Si la filière nécessite des compétences professionnelles particulières, et c'est le cas dans les métiers du soin, on ne peut pas se permettre d'amener quelqu'un dans un cursus de formation si on sait qu'il ne va pas pouvoir exercer le métier demain.
C'est bien la question. Tenir compte des différences.
Voilà, et tenir compte de la différence. Et dans cette partie-là, l'inclusion, nous, ça fait longtemps qu'on en fait, parce que notre institut, il existe depuis 1964, et les stages, ils se font pas dans du milieu protégé. Ils se font dans les établissements publics, privés, les cliniques, les hôpitaux, du service à domicile, etc. Comme dans tout institut. Donc la notion de démarche inclusive, nous, on l'a depuis longtemps. Elle n'est pas réservée qu'à ceux qui ne seraient pas spécialisés sur les populations en situation de handicap. Je voudrais aussi profiter de l'occasion dans notre établissement, on n'accueille pas non plus exclusivement des personnes en situation de handicap.
Je le croyais, à lire votre site.
Mais c'est vrai que sur les 350 places, on n'a que 5 places pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap sur le métier d'aide-soignant. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une démarche inclusive dans la totalité des formations.
Et vous incluez les personnes en handicap.
Mais bien sûr, voilà. Et d'ailleurs, ça nous arrive des fois d'avoir des professionnels qui nous disent, qui nous appellent, nous disent oh, on a un problème avec une aide-soignante ou un aide-soignant. Quel est son handicap? Alors on dit bah, on ne va pas répondre à cette question-là. On va d'abord répondre quelle est la difficulté que vous avez repérée dans l'exercice professionnel. Et une fois qu'on a débattu de ça, il nous arrive des fois de conclure juste, on n'a pas répondu à la première question. Mais on ne répond jamais à cette première question. Mais pour information, cette personne-là n'est pas en situation de handicap.
Un grand merci, Sophie Salvadori, de nous avoir fait connaître M. Patrice Thuot, qui est directeur du pôle Santé CRIP, le centre de rééducation et d'insertion professionnelle, donc réservé, mais pas que, aux travailleurs handicapés. J'espère qu'on ne s'est pas tout dit, parce que vous reviendrez, Patrice Thuot.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.